du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Super Bannière 94.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Peut-être vous êtes en vacances, puisque c'est les vacances scolaires pour notre zone. Eh bien, profitez-en bien. C'est avec ce magnifique ciel bleu et ces températures qui sont parties à la hausse que nous nous retrouvons pour passer une heure entre 12h et 13h. Merci de votre confiance et de votre fidélité à ce Présence Midi. Dans quelques instants, eh bien, nous serons avec deux jeunes. Ils s'appellent Mayeul et Calixte, ils vont nous parler du carême, ils seront au micro de Laurence Houdemont. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, mais dans notre région, il existe un musée, le musée Victor Hugo. Il est dans une petite commune entre Tarbes et Lourdes, enfin une petite commune, une très belle commune qui s'appelle Juillan. Et nous serons avec son créateur, le créateur de ce musée peu connu, qui est consacré donc au grand auteur Victor Hugo. Et puis, Mathias Terrier n'étant pas là, c'est notre ami Anne Deslois qui va interroger cette semaine pour deux passages à Lourdes Lisette Prost. Lisette Prost a été pendant des années la responsable du CCFD Terres Solidaires à Lourdes. Elle nous parlera effectivement de son parcours de vie et de ce qu'elle a pu vivre ici à Lourdes à travers son engagement au CCFD. Voilà pour le sommaire de ce magazine, mais tout de suite, on fait un point sur l'essentiel de l'actualité de ce lundi 23 février avec Lou Denville. Bonjour Lou.
En Ariège, la RD 618 a rouvert partiellement le trafic au niveau de la cour dans l'attente de travaux complémentaires de sécurisation. Des blocs en béton ont été positionnés en bordure de chaussée. La vitesse est quant à elle limitée à 50 km/h et il est strictement interdit de s'arrêter ou de stationner à proximité de l'éboulement. À l'aéroport de Rodez, le parking longue durée fermera pour travaux le 2 mars. Cette fermeture temporaire annoncée jusqu'au 20 mars vise à permettre des opérations techniques sur les infrastructures de stationnement. Afin de limiter l'impact financier de cette fermeture, le parking courte durée appliquera exceptionnellement les tarifs réduits habituellement pratiqués au parking longue durée. Ce week-end, lors du Salon international de l'agriculture à Paris, Manon Devez, une lotoise, a remporté le titre de meilleure jeune bergère de France. Cette récompense lui a été décernée à l'occasion de la 21e édition des Ovimpiades des jeunes bergers, qui a rassemblé 40 finalistes âgés de 16 à 24 ans, issus de 19 territoires. Ces derniers ont été évalués selon des épreuves pratiques et théoriques. Le musée des abattoirs ouvre sa première galerie tactile, une exposition permanente pour permettre à tous les publics, même malvoyants, de pouvoir profiter des œuvres d'art. Cette exposition a été rendue possible grâce à un partenariat avec l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse.
Présence à Saint-Aventin 94.
Et merci à Lou Denville, qui est à l'école de journalisme et de communication de Blagnac. On la retrouvera d'ailleurs d'ici quelques minutes pour le journal complet de la mi-journée. Allez, on propose de parler tout de suite du carême grâce aux invités de notre journaliste Laurence Houdemont.
Bonjour Calixte, bonjour Mayeul.
Bonjour. Bonjour Laurence.
Alors Calixte et Mayeul, vous êtes deux étudiants. Calixte, vous êtes à Tarbes, Mayeul, vous êtes à Toulouse. Alors déjà, vous allez commencer peut-être par vous présenter et ensuite on va aborder un thème d'actualité qui est le carême. Alors comment, quand on est étudiant, on arrive à faire un carême ? Calixte.
Alors, moi, je suis en études d'ingénieur à l'ENIT, l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes. Je suis en première année. Moi, disons que j'aborde ce carême avec pas mal de simplicité. Pas parce que je n'ai pas envie de faire grand-chose de particulier pour le carême, mais plus parce que, pour moi, les efforts, on n'a pas à réfléchir beaucoup pour trouver des efforts. Ce qu'on vit de compliqué au quotidien, c'est un parfait exemple de ce qu'on pourrait améliorer pendant 40 jours.
Par exemple,
je pense à la rigueur au travail. J'ai tendance à pas mal procrastiner et remettre le travail à plus tard. Je pense que c'est un des premiers efforts sur lesquels je vais faire attention pendant 40 jours là.
Merci Calixte. Et vous Mayol?
Alors moi je suis étudiant en infirmier à Toulouse, en deuxième année. Et je suis du coup sur Toulouse dans un foyer d'étudiants, de 6 étudiants d'à peu près mon âge, qui sont dans un couvent de Carmes.
Voilà, donc vous logez au sein du couvent avec des frères Carmes. Et alors du coup, est-ce que vous vous êtes motivés à plusieurs pour vivre un petit peu votre carême?
Oui, alors tout à fait. Donc on vit dans une partie du couvent qui nous est dédiée. Et donc moi, cette année, c'est un de mes colocataires qui m'a motivé à faire un parcours pour le carême qui s'appelle Exodus 90. Voilà, c'est vrai que j'avais pas spécialement pensé à le faire cette année, mais voilà, il m'a motivé, donc on a suivi.
Alors pourquoi Exodus 90? Parce que le carême, c'est 40 jours.
Voilà, alors Exodus 90, c'est un parcours du coup de 90 jours, donc qui commence 45 jours avant le carême et qui finit à Pâques. Donc ça commence tout début janvier. Donc 90, c'est deux fois du coup le carême. On va suivre du coup le parcours d'exode des Juifs à la sortie d'Égypte. Et du coup, ça va être beaucoup de méditation. Tous les jours, en fait, on a une méditation, on a un passage du livre de l'Exode et une méditation qui suit la fuite en Égypte et puis après toute la suite de l'histoire de Moïse. Et avec ça, une méditation donc qui nous est fournie et qui nous permet de mieux comprendre ces textes de l'Ancien Testament. Et le dimanche, c'est des passages du Nouveau Testament.
Et concrètement, je sais qu'il y a des petites, des efforts particuliers.
Oui, alors tout à fait. Exodus, c'est un parcours où on nous propose en fait plusieurs ascèses, ce qu'on appelle des ascèses. Donc c'est des efforts particuliers. Donc il y a par exemple la douche froide, le jeûne le mercredi et vendredi. Il y a après plus des efforts qui sont particuliers par rapport à tout ce qui va être tous les éléments qui vont venir nous divertir dans la vie, tout ce qui va être les films, les matchs, même la musique. En fait, on va essayer de consacrer tout ça, enfin de rester sur de la musique non profane, enfin de la musique qui élève l'âme, comme on dit, des films qui élèvent l'âme. Donc bon, peu de films du coup, mais voilà, le but c'est vraiment de se recentrer sur des choses qui vont nous porter vers le Seigneur et essayer d'enlever toutes ces pollutions qu'on a de nos jours, pendant 90 jours du coup, de les enlever de notre quotidien, pour après mieux retourner dans le monde, on va dire.
Et alors pour respecter toutes ces ascèses, un petit peu que Exodus vous propose, comment vous arrivez à tenir?
Alors, dans Exodus, un des axes principaux, c'est la fraternité, parce qu'on est en groupe de fraternité, donc ça nous permet de parler entre nous. Et de toute façon, le but est bien sûr de respecter les ascèses, mais on sait très bien que c'est impossible, qu'il y en a énormément, et il y a forcément des craquages et des moments où on va relâcher. Mais voilà, faut vraiment essayer de porter ça dans la prière. Donc notamment une des ascèses, c'est de prier une heure par jour, donc soit une heure entière, enfin d'un coup, soit en sectionnant dans la journée. Et ça permet vraiment d'avoir un moment où on peut parler au Seigneur, on va remettre, on va faire notre acte de conscience, on va pouvoir dire tout ce qui a été mauvais dans la journée, toutes les ascèses qu'on a pu louper au cours de la journée. Donc voilà, c'est vraiment à travers la fraternité et la prière, et l'humilité aussi, parce que c'est pas le but, c'est pas un concours, c'est vraiment un parcours entre nous et le Seigneur, et donc c'est à aborder avec beaucoup d'humilité.
Alors Calixte, vous, qu'est-ce que vous pouvez nous partager sur justement votre carême qui vient de commencer?
Alors moi, par rapport à Mailleul, j'ai choisi d'attendre un moment un peu plus propice pour faire le parcours Exodus. Je compte le faire un jour en tant qu'étudiant. Disons que moi, j'aimerais beaucoup faire le parcours Exodus avec un groupe d'étudiants avec lequel je suis soudé et sur lesquels je pourrais compter pendant ce parcours Exodus qui est quand même assez exigeant. Et donc, je compte organiser ça un peu plus à l'avance. Et donc là, je me suis, pour ce carême, particulièrement intéressé aux efforts par rapport à la relation aux autres, notamment par rapport à la popularité. J'ai tendance à vouloir rechercher l'intérêt de la part de mes camarades de classe ou plus généralement à l'élite. Et du coup, je pense que c'est un bon effort que je pourrais travailler, voir en l'autre les dons de Dieu et non pas juste quelqu'un qui pourrait m'admirer pour ce que je suis.
Pour votre charisme ou pour, je sais pas, côté charismatique?
Oui, en fait, souvent on me dit que je suis joyeux, etc. Donc ça peut, je pourrais prendre la grosse tête, etc. Et j'ai souvent tendance à le faire. Donc voilà, je pense que c'est un bon effort, me dire que voilà, les gens, même pour ce que je suis, et tant mieux, mais il faudrait que voilà, je travaille un peu plus ça et que je sois travailler mon humilité. Voilà.
Alors, Calix, vous faites partie aussi de l'aumônerie des étudiants sur Tarbes. Est-ce que ça vous aide, dans votre, là particulièrement dans le carême, mais aussi dans votre vie de foi d'étudiant à Tarbes?
Alors oui, l'aumônerie m'aide beaucoup. En ce moment, on parle donc à l'aumônerie des étudiants du Concile Vatican II, qui est un moment assez important dans l'Église, puisque on a travaillé notamment sur la liturgie, tous les changements qui ont pu se passer après la fin de Vatican II. Et donc, en ce moment où je me pose beaucoup de questions par rapport à tel ou tel geste liturgique, c'est assez important pour moi de me rendre compte que les gestes ont un sens et les mots qu'on dit pendant la messe ou les prières du jour, tous ces mots ont un sens et qu'ils ne viennent pas de nulle part, de gens qui les ont sortis d'un chapeau, mais voilà, c'est toutes ces phrases, toutes ces tournures, elles ont vraiment une signification, et Vatican II vient modifier certaines tournures de phrases pour les rendre plus actuelles et plus compréhensibles par le plus de monde possible.
Merci. Donc vous faites ça en groupe avec un couple qui s'occupe de vous?
Alors oui, absolument. À l'aumônerie des étudiants, on est une vingtaine de jeunes. On est accompagné par le frère David Marie et sœur Daniela Luce, le mardi soir. Et donc, on est accompagné aussi par un couple qui nous prépare des merveilleux enseignements et topos durant toute l'année.
Alors, pour rebondir sur l'aumônerie, Mailleul, vous êtes aussi un petit peu accompagné, du coup, à Toulouse?
Oui, tout à fait. Nous, dans notre couvent de Carmes, on est du coup tout un groupe de 6 jeunes qui habitons sur place, et on a du coup ensemble des moments de prière. On a notamment les lodes le matin à 7h, on a le dîner du mardi avec un topo assez régulièrement, voilà. Et donc c'est des efforts qu'on prend ensemble en foyer, et ça permet de mieux se porter à la prière et d'être plus assidu à cette dernière. Le fait d'être accompagné, enfin d'être tous ensemble, porte vraiment à continuer ces efforts. Et quand il y en a un qui est moins motivé ou qui n'a pas envie, de toute façon il est un peu entre guillemets forcé par les autres, donc ça permet de se motiver entre nous.
Merci Mailleul. Calix, vous voulez terminer l'interview?
Je suis content de redécouvrir à quel point le mercredi des cendres subit un engouement en ce moment de la part de nouveaux jeunes. Hier, j'ai vu la cathédrale de Tarbes partiellement remplie de têtes inconnues, notamment beaucoup de jeunes. Et donc, je suis content de me dire que je vais pouvoir retrouver toutes ces nouvelles personnes dimanche prochain et les autres dimanches du carême.
Merci Calixte. Alors Mayeul et Calixte, merci pour votre témoignage. Et puis donc, on vous souhaite un très bon carême. Merci.
Merci. Au revoir.
Présence à Saint-Céré, 95.8.
Ce matin, je vous amène pas très loin de Tarbes, je vous amène à Juillan, avec vous Jean-Claude Rieu de Batte, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on n'est pas dans l'excellente émission de Philippe Denis et Diego Rabal, Un jour, un livre, un auteur, mais on va parler de livres et d'un auteur, peut-être un des plus grands auteurs, Victor Hugo. Vous êtes le président d'un musée, le musée Victor H. Mmh. C'est quoi ce musée et où on peut le trouver ?
Alors, c'est un des très rares musées existants sur Hugo. Il n'y en a guère qu'une petite demi-douzaine, enfin 4 ou 5 en France, et puis 2 à l'étranger. Et j'ai eu l'idée d'aménager ce musée, à vrai dire, parce qu'on s'était constitué en groupement de sympathisants. Plus tard, on a formé une vraie société de type 1901, la loi de 1901,
oui,
avec des statuts, etc. Et la municipalité nous a octroyé une salle dans une ancienne ferme qu'elle nous a restaurée. Petit à petit, nous avons rempli les murs de documents, tableaux, photos, écrits, affiches, et il ne reste plus de place du tout. Tous les murs sont pris maintenant par diverses choses qui ont tout trait à la vie et à l'œuvre de Victor.
De Victor Hugo. Voilà. Pourquoi cet auteur particulièrement a retenu votre attention ? Comment ça s'est passé ?
C'est une question qui m'a souvent été posée, et à vrai dire, autant que je puisse le dire, j'avais 11 ans, en CM2, à l'école primaire, et l'instituteur nous avait fait apprendre un immense poème dans la légende des siècles qui s'appelle « Les pauvres gens ». Et allez savoir pourquoi ce texte m'a beaucoup touché. Les images, les rimes, le contenu, etc. J'avais appris ça par cœur, sans doute, sans problème. J'avais fait un très joli dessin pour illustrer le poème, je me souviens. Et puis ça a commencé là, je suis sûr que ça a commencé là à 11 ans, et puis avec des hauts et des bas bien sûr,
oui,
mais pas trop je dois dire dans le cadre scolaire après, parce que je n'ai pas eu l'occasion dans les programmes scolaires de fréquenter, hormis une fois en seconde ou première, on avait Ruy Blas au programme, sauf qu'on avait un professeur qui n'aimait pas du tout Victor Hugo. Donc ça n'a pas joué beaucoup là, mais après coup, je me souviens que vers l'âge de 18-20 ans, alors que j'étais faisais des études à Toulouse, mais pas des études de lettres françaises, j'ai lu, donc pour mon plaisir, Les Misérables, Les Contemplations, Les Châtiments, Les Travailleurs de la Mer, tous ces chefs-d'œuvre. Et plus je lisais, et plus il me semblait que j'avais des espèces de connivence avec Victor, ce qui peut paraître très immodeste, mais c'est un peu comme ça que je le ressentais, donc voilà. Et puis j'ai réussi à décider une demi-douzaine de Juillanais à me suivre dans l'aventure, et donc nous faisons vivre ce musée.
Alors comment on le fait vivre ? Qu'est-ce que, à part bien sûr ce que vous avez dit, les murs sont recouverts de portraits, d'anecdotes, de pages manuscrites, je suppose. Comment on fait vivre un musée ? Qu'est-ce que vous a mené ?
Alors on s'y retrouve déjà pour répéter nos spectacles. Et puis, on y produit des soirées aussi, 3 soirées par an, en général, où les gens viennent, puisqu'il y a une cinquantaine de places, à peu près. Et donc, on y passe des moments agréables, en toute intimité, en toute connivence, avec Victor. Oui, voilà.
Alors, oui, alors on le comprend, mais c'est quoi le concept ? Vous lisez ?
Alors,
vous avez des lecteurs ?
C'est très varié, on y dit, oui, on lit. Moi, je n'aime pas lire, je préfère avoir les textes dans la tête, donc je les mémorise, je les ressors de mémoire.
D'accord.
C'est plus facile après, quand on y met les gestes. Et puis, il y en a qui lisent, d'autres, et puis parfois des petits sketchs qu'on monte aussi sur place avec le matériel que nous avons, et puis selon les disponibilités et les rôles de chacun. Et puis il y a il y a une librairie, si je puis dire, une bibliothèque où sont toutes les œuvres de Victor en double exemplaire, dans deux collections différentes. Et là, les gens peuvent se servir et voilà, et emporter provisoirement.
Voilà, l'ouvrage. Une bibliothèque, voilà. On les ramène après. Voilà, quoi. C'est voilà. Ça. Oui. L'idée, c'est vraiment de faire connaître l'œuvre de Victor Hugo au plus grand. Est-ce qu'on vous demande des conseils de lecture?
Non, pas trop. Moi, souvent, je dis aux miens, tiens, tu devrais lire ça, préparer un peu pour la prochaine fois ce texte-là. Donc, voilà, plutôt comme dans ce sens, comme ça.
Vous me disiez au début qu'il y a une petite douzaine de musées en France sur Victor Hugo. Oui. Est-ce que vous avez été les visiter? Oui. Et le vôtre, qu'est-ce qu'il apporte de plus ou de moins que les autres?
Alors, j'ai visité celui de Besançon, je n'ai pas pu parce qu'il n'existait pas à l'époque. J'ai visité évidemment celui de la Place Royale, la Place des Vosges à Paris, il y a très longtemps. Je suis allé 3 fois à Guernesey, visiter sa maison qui a été transformée en musée, Hauteville House. Je suis allé à Saint-Sébastien aussi, à l'extérieur de Saint-Sébastien, en Espagne, où il y a un musée, enfin une maison, la maison où il a résidé pendant un mois, qui a été transformée en musée. Et puis il y a le nôtre, donc. Et qu'est-ce qu'il apporte de plus? Je ne sais pas. Nous y avons donc un texte de Hugo. On nous a promis, un Julian, il nous a promis un dessin de la main de Hugo. Et là, on est preneur. Là, on est preneur, oui. Un ami, la semaine dernière, m'a transmis une photo du siège de Victor Hugo au Sénat. Et où il y a marqué sur une plaque de cuivre son nom avec les dates où il a siégé. Curieusement, c'est le siège qu'a occupé aussi Clémenceau après lui. Et, étonnante coïncidence, siège qui a été aussi occupé par Jacques Duclos. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Jacques Duclos de Louy, à côté de chez nous, là, qui était donc le numéro 1 du Parti communiste à son époque et qui a été candidat à la présidence de la République en 1965, où il avait récolté quand même 22 ou 23%
Des
suffragilités de Louy.
Il était de Louy. Marquisa, puisqu'on parlait de Julien. Oui.
Et alors, quand sa maison a été vendue, elle a été rachetée par la municipalité de Louy et il y avait une bibliothèque. Je me souviens d'avoir lu dans la presse que dans sa bibliothèque, il y avait quand même 15 ouvrages de Victor Hugo. Donc il devait être hugolien lui aussi.
On parle de Louy, on parle de Julien. Oui. Vous disiez que Victor Hugo avait traversé Julien.
Oui.
Peut-être pas, il s'y est peut-être pas arrêté parce qu'à l'époque, bien sûr, Julien ne ressemblait pas forcément à ce que c'est aujourd'hui.
Non, il est passé dans le 3 septembre 1843 entre 10h et 11h du matin.
C'est précis.
Ah oui, parce qu'on sait qu'il est arrivé à Tarbes vers midi. Donc, avec un ami Jacques, là, on avait imaginé ce qu'il a pu dire en traversant Julien. Il voyageait toujours sur le devant de la diligence. Il aimait bien être fouetté par le vent. Et Juliette Drouet, elle était au chaud dans la cabine. Et on a imaginé qu'il a pu dire au cocher, quel est le nom de ce village dont on aperçoit le clocher là-bas derrière les arbres? Et le cocher disant, c'est Julien, monsieur. Alors Hugo, ah, Julien, bien joli nom pour un village. Et y a-t-il une auberge? Je ne sais pas, monsieur, mais ce que je sais, c'est que nous sommes à une lieue de Tarbes et que nous allons arriver dans 1 heure. Et Hugo finit par dire, bon, alors dans ce cas, j'attendrai. Et puis, bon, ils sont passés, voilà.
À travers l'auteur, est-ce que vous faites découvrir aussi qui était Victor Hugo dans son intimité?
Oui, on m'a dit que souvent que je devrais faire une séance sur Victor Hugo et les femmes. Et il y a effectivement là beaucoup à dire. Je le ferai sans doute un jour, oui.
C'est quelqu'un qui a eu...
Après, j'ai fait des spectacles sur Victor et l'ours. Et l'ours pyrénéen, oui. J'ai fait Victor et les enfants, Victor et la langue anglaise, Victor et les patois, parce qu'il était aussi ouvert à ce genre de choses. Voilà, c'est assez varié.
Ouais. Assez varié. Voilà, c'est quelqu'un qui vous malgré les années qui passent, votre âge...
Oui, ça ne faiblit pas. Ça ne faiblit pas. Au contraire, je dirais.
Ce musée a donc, et cette association qui s'appelle Victor H, pour Victor, bien sûr, Victor Hugo, où se situe ce musée et comment, si des gens nous écoutent et souhaiteraient eh bien, peut-être grossir les rangs de votre association ou le visiter, comment on peut faire?
Alors, il se situe au 3 place Antonin Bedbèze, ça s'appelle comme ça. C'est presque au centre du village, un peu en retrait par rapport à la route qui traverse le village, la nationale. Non, c'est pas une nationale, c'est une départementale, qui s'appelle la rue Maréchal Foch. Donc, trois plans centre-même bête-baise, en haut d'un escalier. Alors, ça, c'est pas très commode pour les gens qui sont un peu âgés, c'est vrai, mais on n'a pas eu le choix. Et c'est moi qui ai la clé, il n'y a qu'une clé, ou alors à la mairie, mais c'est moi qui ai la clé, donc il faut me contacter au 12 rue Maréchal Foch si les gens veulent venir.
Alors, je sais que c'est assez facile à vous trouver, oui. Parce qu'il y a le stade de rugby, voilà. Bien sûr, à l'entrée de Juillat.
En face, c'est les poteaux.
En face, c'est les poteaux, il y a votre maison.
Depuis ma cour, je peux taper un drop.
et donc, on peut rentrer en contact avec vous, Jean-Claude Rieux de Batte, parce que vous avez la clé et puis vous avez aussi la connaissance de ce musée. Musée donc qui est consacré à Victor Hugo, j'en connaissais pas. Hein, mais ce genre de choses dans notre région. Dans notre région Occitanie, au moins Midi-Pyrénées, aussi qu'il y en a un autre,
Non, à ma connaissance, on est les seuls, oui. Oui. D'accord. Oui. Non, parce qu'il n'est pas passé. Il a été diplômé à Toulouse, mais il n'y est pas venu que je sache récupérer son diplôme des Jeux floraux, donc non. Il n'y a pas d'autres, non.
Donc,
non.
Vous avez un peu la primeur dans notre région. Oui. Voilà, donc ce musée Victor Hugo, Victor H, comment vous l'appelez, eh bien, il faut aller à Juillat. Alors, pour les gens qui nous écoutent un petit peu de loin, Juillat, c'est assez simple. C'est la banlieue de Tarbes, on va dire quelque part. Hein, c'est pas très loin de Tarbes. Et donc, si on vient de Tarbes et si on veut aller vers Lourdes, forcément, en ne prenant pas, bien sûr, la deux fois de voie, mais l'ancienne route, on passe et on traverse Juillat. Voilà. Et au feu, on tourne à droite
et
vous faites quelques mètres et vous êtes d'abord chez vous et après on vous amène au musée qui est un petit peu plus loin. Très bien. Merci beaucoup.
Juste, je peux préciser une chose. Alors, nous y avons donc deux pages écrites de la main de Victor, ça c'est quand même le plus précieux. Après, nous y avons, j'ai ramené de Guernesey, je dois être un peu fétichiste, j'ai ramené des branches du chêne qu'il a planté le 14 juillet 1870.
D'accord.
J'ai ramené deux galets de la plage où il aimait à se baigner, Fermain Bay, un très joli endroit. Et puis, il y a aussi l'édition originale de quelques ouvrages, ça en est fier quand même. Il y a 93, son roman sur les guerres de Vendée. Il y a Histoire d'un crime, et il y a Les travailleurs de la mer. Et il y a un livre de Lamartine qui s'appelle Jocelyn en vers, et qui est l'édition originale aussi.
Voilà. D'accord, on a cette richesse dans notre région et c'est pas très loin, c'est à Juillat, voilà. Donc entre Tarbes et Lourdes. Merci beaucoup Jean-Claude Rieux de Batte,
avec plaisir,
nous parler de ce musée qui est un musée consacré donc à un des plus grands écrivains français,
le plus grand, je dirais.
Et bien sûr, je vous laisse bien sûr le dire, le plus grand écrivain français, Victor Hugo. Un grand merci à vous et puis à très bientôt, puisque je crois que vous serez l'invité pour Un jour un livre en auteur d'ici quelques semaines pour nous parler plus longuement de ce musée. À bientôt.
Merci.
Radio Présence à Auch 89.6.
Il est 12h passé de 28 minutes, on retrouve tout de suite le journal de la mi-journée avec Lou Denneville qui est étudiante à l'école du journalisme de Blagnac. Bonjour Lou.
En Ariège, la RD 618 a rouvert partiellement le trafic au niveau de Lacour. La circulation était totalement coupée sur cet axe depuis la nuit de lundi à mardi dernier à cause d'un éboulement bien plus conséquent qu'initialement prévu. Dans l'attente de travaux complémentaires de sécurisation, des blocs en béton ont été positionnés en bordure de chaussée afin de créer un dispositif piège à cailloux, informe le département. Dans la zone de l'éboulement, la vitesse est limitée à 50 km/h et il est strictement interdit de s'arrêter ou de stationner à proximité. Pour les automobilistes se déplaçant dans le sens des vallées du Sala et de l'Arac vers Saint-Giron, il convient de suivre l'itinéraire conseillé par la RD3, la route des tunnels. À l'aéroport de Rodez, le parking longue durée fermera pour travaux le 2 mars. Cette fermeture temporaire, annoncée jusqu'au 20 mars, vise à permettre des opérations techniques sur les infrastructures de stationnement. Le chantier impose une libération progressive des lieux. Les véhicules déjà stationnés devront impérativement quitter le parking au plus tard le 15 mars. Passé ce délai, le site sera entièrement dédié aux travaux. Afin de limiter l'impact financier de cette fermeture, le parking courte durée appliquera exceptionnellement les tarifs réduits habituellement pratiquées au parking longue durée. Cette disposition concerne toute entrée effectuée entre le lundi 2 mars et la réouverture estimée du P2, annoncée pour le 20 mars. Au Salon international de l'agriculture à Paris, Manon Devez a remporté le titre de meilleure jeune bergère de France. Lors de la 21e édition des Ovimpiades des jeunes bergers, organisée par la filière ovine, Manon Devez, une lotoise, a été sacrée ce samedi meilleure jeune bergère de France 2026. Le concours, qui a rassemblé 40 finalistes âgés de 16 à 24 ans, issus de 19 territoires, a évalué les candidats sur des épreuves pratiques et théoriques. Le jury, composé de professionnels et d'anciens lauréats, a salué le haut niveau technique et l'engagement des participants. Enfin, le musée des abattoirs ouvre sa première galerie tactile, une exposition permanente pour permettre à tous les publics, même malvoyants, de pouvoir profiter des œuvres d'art. Depuis 2006, un partenariat avec l'Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse a permis la mise en place d'ateliers et de visites hebdomadaires à destination des enfants non-voyants et malvoyants. Laurence Darigrand, responsable du pôle des publics, nous en dit plus sur les détails de ce projet.
On a commencé à travailler sur l'idée avec l'Institut des Jeunes Aveugles et un groupe d'adultes qui se sont beaucoup impliqués. On leur a dit, mais voilà, nous on voudrait qu'il y ait une galerie tactile pérenne, comme les collections permanentes, que tout le monde puisse le voir, parce qu'on s'est rendu compte que les gens adoraient toucher le rideau tactile, la maquette tactile en bas. Et donc on s'est dit, mais voilà, il faudrait sélectionner parmi les 4000 œuvres, 4 œuvres, deux hommes, deux femmes, art moderne et art contemporain, qui soient signifiantes pour vous. Et là, on a commencé les séances de travail. On a été aidé par un plasticien tactile génial qui s'appelle Zano Martinez. Et on a fait des réunions et des réunions. Et on disait, ben voilà, là, on le comprend. Là, je perds l'explication de l'œuvre. Là, cette matière me va pas. J'arrive pas à synthétiser. Énormément de séances pour arriver comme ça à aboutir, ben, aujourd'hui, où on inaugure ces 4 œuvres tactiles qui sont une œuvre de Kusama, une de Tapiès, une œuvre de Louise Nevensol et une œuvre de Morlaix.
C'était Laurence Darigrand, responsable du pôle des publics au musée des abattoirs, à propos de la nouvelle galerie tactile.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur les ondes de Radio Présence Lourdes. Aujourd'hui, dans notre émission de passage à Lourdes, nous avons le plaisir d'accueillir Lisette Prost. Lisette, bonjour.
Bonjour Anne.
Alors certains de nos auditeurs vous connaissent déjà, parce que jusqu'à ces dernières semaines, eh bien, vous étiez la responsable de l'espace rencontre du CCFD Terre Solidaire à Lourdes. Alors, l'espace rencontre, c'est un lieu d'animation, mais vous allez nous en parler un petit peu. Si on vous a invité aujourd'hui au micro de Radio Présence, c'est parce que vous vivez une nouvelle étape. Hein. L'heure de la retraite a sonné, comme on dit.
Le 1er avril.
Voilà, le 1er avril. Et pour nous, c'est important de mieux vous connaître, de mieux découvrir votre personnalité. D'ailleurs, au regard de tout le parcours professionnel que vous avez fait au sein même du CCFD Terre Solidaire, mais ces 16 dernières années ici à Lourdes. Alors, quelques mots déjà pour situer ce qu'est le CCFD Terre Solidaire.
Alors, le CCFD Terre Solidaire, c'est une association d'éducation populaire, mais quand même surtout une ONG, une organisation non gouvernementale qui existe depuis 1961. Donc, normalement, ça devait exister à l'époque, allez, maximum 6-8 ans, quoi. Et malheureusement, nous existons toujours.
Et qu'est-ce qui a justement donné le déclic de créer le CCFD, qu'on appelait peut-être pas en 1960 Terre Solidaire?
Non, c'était juste Comité catholique. Et donc, contre la faim, pardon. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un gros problème de malnutrition, enfin de famine dans différents pays. Et donc, comme beaucoup d'associations, les personnes se sont regroupées pour pouvoir envoyer du riz, enfin de quoi manger dans des pays où ils en avaient réellement besoin. Et puis on s'est aperçu finalement que c'est bien d'apporter du riz, des sacs de riz ou de la farine. Simplement, ils savent très bien cultiver. Il fallait juste leur donner les moyens de pouvoir cultiver leur terre, de pouvoir transformer ce qu'ils avaient pu planter. Donc ça a commencé comme ça.
Donc en fait, en France, les évêques de France à l'époque ont demandé à des mouvements et des services d'église de se regrouper. Si je me souviens bien, le CCFD Terre Solidaire, c'est la collégialité de différents mouvements, services qui sont tournés vers la solidarité.
Oui. D'ailleurs, le CCFD est constitué de 31 mouvements. Donc parce qu'en fait nous on travaille effectivement sur tout ce qui est l'agroécologie, l'agriculture, mais il y a des personnes nettement plus spécialisées que nous. Donc par rapport à la faim, c'est pareil, c'est important de pouvoir donner la possibilité de que les gens puissent manger à leur faim, mais il y a des telles associations qui sont nettement plus compétentes que nous. Et aussi au niveau de l'éducation, au niveau des femmes, donc on va soutenir des projets. C'est pas nous qui intervenons, nous sommes pas des volontaires du Progrès ou d'autres ONG. On aide financièrement les projets donc des personnes des associations qui nous demandent.
Voilà, donc à travers le monde.
À travers le monde. Alors on intervient surtout sur tous les différents continents, malheureusement oui, surtout le continent africain. Parce que et puis en Asie bien sûr, en Amérique centrale et en Amérique. Au Brésil, parce que justement il y a de maltraitance des hommes et des femmes, et donc c'est important de les soutenir. Je pourrais par exemple vous donner plein d'exemples, mais il y en a peut-être un qui me tient à cœur. C'était quelqu'un que j'avais rencontré donc qui venait du Brésil. Et donc, il y avait une pêche incroyable parce qu'il avait réussi à avoir que sa culture fonctionnait bien, enfin son agriculture fonctionnait bien. Et puis finalement, quelques années plus tard, je le revois et je l'avais pas reconnu. Et là, je demande éventuellement à mes collègues, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et on m'a dit, son fils a été assassiné parce qu'il était dérangeant. Donc lui, il était protégé. Mais on n'avait pas forcément fait attention à son fils qui s'est fait assassiner.
Et oui, c'est vrai qu'on a souvent entendu parler de toutes les histoires avec les gros propriétaires terriens,
c'est ça,
dans le Nord-Est et au Brésil en général, quoi. Alors Lisette, avant même de travailler au CCF des Terres Solidaires, vous aviez été déjà très engagée dans le milieu associatif et notamment au niveau de l'éducation populaire. Alors quand vous avez choisi de venir travailler au sein du CCFD Terres Solidaires, je crois d'ailleurs que vous avez commencé en Lorraine et Alsace, qu'est-ce qui a vraiment motivé cet engagement ? Parce que c'est quand même pas une ONG comme une autre.
C'était leur projet, le projet éducatif. Je trouvais que par rapport à ce que j'avais pu connaître, il y avait un fond vraiment qui me paraissait important. C'était la solidarité qui me semble très importante, la fraternité. Et donc, bien sûr, je l'avais au niveau de l'éducation populaire, mais c'était différent. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai postulé. J'avais très peu de chance, je ne venais pas du CERA et je ne venais pas des mouvements et services d'église. Donc je me suis dit, bon, mais qui n'essaie rien n'a rien. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont fait confiance.
Alors vous parlez justement de valeurs du CCF des Terres Solidaires, la solidarité, la fraternité, la justice. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui rejoignent vraiment le plus profond de votre cœur et que vous avez eu, du coup, la chance, tout en travaillant, de mettre ces valeurs en pratique ?
Ce qui me semble important, c'est que on ne fait pas à la place des personnes qui demandent, et ça repose sur des projets. Je reviens encore à ça parce que ça me paraît très important. Donc c'est pas de l'assistanat, c'est juste donner un coup de pouce. Et puis en plus, le CCF des Terres Solidaires intervient aussi au niveau de l'Europe. Donc il y a des commissions au niveau du Parlement européen où ils se retrouvent pour justement avoir... donc on travaille avec d'autres ONG, l'Espagne par exemple, l'Italie, l'Allemagne et la Belgique. Et donc ce qui est très important, c'est que même si on travaille sur le même pays, on se retrouve sur place et on essaie de travailler ensemble et avec bien sûr la population. On ne fait pas à leur place, ça c'est pour moi très important.
Alors vous ne faites pas à leur place, mais vous avez eu l'occasion pendant vos années de mission au CCF des Terres Solidaires d'aller rencontrer des partenaires du Sud global, comme on dit maintenant. Alors vous venez de nous parler d'un partenaire du Brésil qui était de passage en France. Vous-même, vous avez accompagné des fois des groupes en différents lieux de la planète. Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre souvenir qui vous reviennent et que vous portez toujours au cœur ?
Alors mon premier souvenir, c'est Madagascar, magnifique pays, des gens extrêmement sympathique, qui malheureusement, donc, alors, avec un pays très très riche, des richesses incroyables, donc aussi bien des pierres précieuses, de l'or, etc. Mais ce qui, vraiment des personnes qui ont envie de faire quelque chose, mais ils ne peuvent pas parce que il y a donc des structures qui viennent d'autres pays et qui essaient de les exploiter. Et puis en même temps, c'est la première fois que j'entendais parler, donc quand je suis allée à Madagascar, donc j'ai pu rencontrer des écoles, j'ai vu donc des enfants, ils n'avaient pas de cahier, donc ils écrivaient sur leurs mains ce que l'institutrice leur disait. Et puis quelqu'un qui m'a dit, tu sais, pendant la décolonisation, la France n'a pas été très sympa avec nous. Donc voilà, et quelque part je me dis bon, je suis pas là pour réparer ce qui a pu être fait, mais en tout cas de les accompagner sur un développement où ils peuvent se débrouiller seuls.
Un autre exemple, on était à Madagascar, vous êtes allé, si je me souviens bien, au Nicaragua. Oui. Et d'ailleurs, on est à Radio Présence, mais vous-même, vous avez eu une expérience avec une radio sur place, là-bas.
Tout à fait. Donc, oui, une radio qui est tenue par des jésuites et des jeunes. Parce que ce que j'ai pu constater, alors c'est pareil, le Nicaragua, c'est un pays donc, qui est pauvre, mais qui est malheureusement, tant qu'il y aura ce président qui exploite comme ça, ça n'avancera pas. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Ce que j'ai pu rencontrer, c'est qu'il y a une maltraitance, à des abus sexuels au niveau des enfants, et pas seulement les filles, des garçons aussi. Et c'est pas forcément aussi des étrangers, ce sont aussi des membres de la famille. Donc, cette communauté essaie de travailler sur de dire non. Non, je ne veux pas. Mais en même temps, il faut les protéger. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Et on parle de plus en plus, même en France, des abus sexuels que des jeunes peuvent subir. Donc déjà, à l'époque, à Madagascar, il y a eu des jeunes qui ont été abusés.
Et au Nicaragua aussi, vous dites ?
Et au Nicaragua, pardon. Voilà. Et aussi, peut-être dans d'autres pays.
Alors, autre pays que vous avez visité où vous avez aussi une action en faveur de la jeunesse, c'était le Burkina Faso.
Oui, donc avec des jeunes, je suis partie avec des jeunes, avec aussi, avant d'y aller, on avait travaillé en forme avec Pierre Rabhi sur l'agroécologie en Afrique de l'Ouest. Donc c'était quand même un sacré projet. Le ministère des Affaires étrangères nous avait soutenus dans ce projet-là. Et donc j'ai pu partir avec 12 jeunes, filles et garçons. Donc le travail que j'ai pu faire avant, c'est attention, vous n'allez pas dans n'importe... on va être en plein... en brousse, entre guillemets. Donc attention à vos tenues vestimentaires, attention, vous n'aurez pas d'eau, on aura très peu d'eau. Donc on a appris à faire attention à l'eau. Et puis travailler ensemble avec la population.
On voit bien, on entend bien que tout ça résonne encore au monde d'aujourd'hui, quoi. Hein. Ce respect de la nature, la création. Alors, dans une deuxième partie de notre émission, après la pause musicale, nous allons pouvoir vous entendre aussi sur votre engagement et comment vous avez sensibilisé les publics venant à Lourdes à toutes ces questions de la fraternité, de la solidarité et de l'écologie. À tout de suite.
À tout de suite.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2. à Montrégeau, 94.1.
Aujourd'hui, dans notre émission de Passage à Lourdes, nous accueillons Lisette Prost. Alors, je rappelle, vous avez été pendant 16 ans responsable de l'espace rencontre du CCFD Terre Solidaire à Lourdes. C'est d'ailleurs pour ça que nous vous invitons, puisque on voudrait relire avec vous votre parcours professionnel. La première partie nous a emmené d'une certaine façon à Madagascar, au Burkina Faso, au Nicaragua et bien ailleurs. Alors là, on va revenir plus sur votre action et votre engagement ici dans la cité mariale. Alors vous êtes arrivé, je crois que c'était au printemps 2009.
1er avril.
1er avril 2009, pour travailler, pour représenter le CCFD Terre Solidaire, à la fois un travail en lien avec le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et avec la société civile, donc la ville de Lourdes. Alors déjà Lisette, après déjà tous vos périples et tout votre engagement dans l'Est de la France et ailleurs, vous arrivez à Lourdes, quelle est votre première impression? Vous découvrirez peut-être des choses du côté de la grotte, dites-moi.
Alors lorsque je suis arrivée, c'était le 1er avril donc 2009 et il pleuvait beaucoup, enfin voilà, donc je suis restée d'abord dans la rue du Bourg, mais à cette époque-là, ce qui était intéressant, c'était une rue qui était très passante parce qu'il y avait beaucoup de pensions de famille et donc des pèlerins. Au 1er avril, ils sont arrivés juste un petit peu après, donc j'ai vu une transformation au fur et à mesure en disant bon, 1er avril, il n'y avait pas grand-chose, puis d'un seul coup, ça arrive comme ça. Donc ça, c'est surprenant. Et cette rue du Bourg, qui est très belle d'ailleurs, il y avait énormément de personnes qui passaient sur les pas de Bernadette, etc.
Enfin, ah voilà. Oui, c'est un chemin entre, on va dire, le sanctuaire, le cachot, l'église, enfin c'est vrai, le centre de Lourdes.
Voilà. Et cette maison aussi accueille donc bien sûr des groupes, mais comme j'étais toute seule, donc j'avais de la chance aussi de travailler avec des bénévoles qui étaient là, donc, et qui étaient habitués à... les pèlerins passaient, ils s'arrêtaient, donc ils restaient nettement plus longtemps aussi à Lourdes. Donc ça, c'était pour moi... donc ils m'aidaient à animer ou à discuter avec les pèlerins. Ensuite, par rapport à le sanctuaire, donc là, j'ai eu la chance aussi de découvrir que les différents mouvements et services d'église qui étaient là, qui étaient à la périphérie du sanctuaire, nous essayions à l'époque de travailler, d'être au service du pèlerin. Et moi, j'ai toujours dit depuis 2009 qu'on est au service du pèlerin et que ça, c'est pour moi très important. Donc, on travaillait beaucoup sur le thème qui était présenté, et puis ensuite on adaptait nos animations ou nos discussions ou nos débats, enfin bref, voilà.
Donc ça veut dire que vous aviez des organisateurs de pèlerinage, des directeurs, directrices de pèlerinage qui vous contactaient parce qu'ils souhaitaient, par exemple, que leur groupe de pèlerins, alors je pense des jeunes, des moins jeunes, peut-être des adultes, des personnes âgées, mais aussi des personnes en mobilité, enfin en situation d'handicap, pouvaient venir vous rencontrer pour avoir une animation dans le cadre même du pèlerinage.
C'est ça. Et donc l'avantage, alors avant, on pourra en reparler, donc après ce que nous avons pu faire dans le sanctuaire, je dis bien nous parce que je ne suis pas toute seule, hein, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont beaucoup accompagnée. Au niveau de la mairie, justement, rue du Bourg, donc c'était une rue qui était très très passante, j'ai travaillé pas mal avec le maire à l'époque, donc monsieur Artiganave, parce qu'on fêtait aussi les 50 ans du CCFD, et je dois dire que ça a été très important parce qu'on a pu développer le CCFD. Donc, d'ailleurs, on a pu profiter aussi pour les 50 ans du château, enfin, etc. Et puis, j'ai travaillé aussi avec les œuvres pontificales missionnaires. Enfin, bref, voilà. Ensuite, le fait d'avoir travaillé avec la mairie, j'ai pu intervenir dans des établissements scolaires pour parler de la solidarité internationale à des enfants. Et dire aussi, donc, de travailler sur les clichés que nous pouvons avoir, et même les enfants tout petits, enfin, tout à 10 ans, ils ont des clichés en fonction de ce qu'ils entendent ou ce qu'ils comprennent. Donc, ça, c'était tout un travail que j'ai pu faire avec des institutrices et aussi des profs.
Et je crois même que lorsque la ville organise une journée, un dimanche multiculturel, donc en invitant diverses associations qui se trouvent sur Lourdes pour que les différentes communautés se retrouvent, et puis mettent en valeur les richesses de leur culture, vous-même, en tant que responsable du CCFD Terre Solidaire, vous êtes invité à faire de l'animation pendant cette journée.
Oui. Alors c'est très intéressant, donc dès le matin, donc un dimanche matin, on monte les stands, et alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a des Lourdais qui viennent, voire d'autres aussi d'ailleurs bien sûr, et c'est aussi la rencontre avec les autres associations, et je pense que c'est quelque chose à développer, et je pense que si on pouvait travailler avec les autres associations aussi, donc CCFD et les autres associations, ça serait vraiment intéressant.
Et vous, Lisette, quand vous êtes dans une journée multiculturelle comme cela, au niveau de votre stand, vous mettez surtout en valeur, donc peut-être le lien entre les différents peuples. Qu'est-ce que vous avez comme outil pédagogique ?
Alors moi, mon outil pédagogique, j'ai deux outils en fait. Je peux me déplacer avec que ces deux outils-là et on peut parler. C'est la carte, une carte Peters qui est à l'envers pour beaucoup.
Donc une carte du monde.
La carte du monde, pardon, merci. Donc, et de montrer que finalement le Nord et le Sud n'existent pas. Que on a toujours été habitué en Europe de voir, voilà, la France par exemple est au milieu, enfin bref, voilà. Et là, c'est la France, elle se trouve pas du tout au milieu. Et je vous invite à aller à rue du Bourg ou au Parvis Sainte-Bernadette pour découvrir cette carte qui est superbe. C'est mon, voilà, c'est mon dada, quoi. Et puis un dernier, une animation aussi qui plaît beaucoup, aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes. Ça s'appelle un twister, donc c'est quelque chose avec aussi montrer que notre façon de consommer provoque des dérèglements dans différents pays et que c'est pas eux qui en profitent, ce sont des multinationales.
Alors justement, vous avez fait référence plusieurs fois à des animations donc avec le sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes. Depuis quelques années, effectivement, le CCFD Terre Solidaire, Pax Christi, des mouvements d'action catholique sont présents pour faire de l'animation auprès des pèlerins individuels dans le sanctuaire. Et quel lien vous faites entre justement les points forts du CCFD, les objectifs du CCFD Terre Solidaire et le message de Lourdes, les signes de Lourdes?
Au niveau des. Alors, moi, je travaille plus sur l'eau. Donc, par exemple, Pax Christi vont plus travailler sur la paix. Les autres mouvements vont prendre donc la procession, voilà. Moi, ce qui me semble important, c'est que l'eau, c'est quelque chose qu'on doit protéger. Je pense que c'est ce que vous voulez demander. Enfin voilà, ça me semble très très important. Et c'est pour moi, je ne suis pas là pour faire une leçon. C'est juste sensibiliser les personnes à faire attention à cette eau qui est malheureusement, je trouve qu'on est on maltraite cette richesse, quoi.
Oui, et on sait justement combien l'eau est précieuse pour la vie, et donc et on sait que l'eau de Lourdes justement a un sens particulier pour tous ceux qui y viennent.
Alors grâce aux pèlerins et justement en étant au parvis Sainte-Bernadette, j'ai eu la chance de j'ai posé des questions parce que j'étais pas au courant et par rapport à cette eau, les pèlerins quand ils viennent avec leurs petites gourdes ou avec des jerrycans aussi, hein, donc voilà, bon. Et puis la force du rocher, ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc je me suis permise de poser la question. Et en même temps, j'ai écouté donc ces pèlerins, on va dire passants, qui ne dépendent pas de pèlerinages donc organisés et qui ont besoin de parler et d'être accueillis. Et je crois qu'au Parvis Sainte-Bernadette, depuis 4 ans qu'on a pu mettre en place cet accueil-là, nous avons accueilli énormément de pèlerins passants qui prenaient le temps de s'asseoir et on discutait.
Lorsque notre cher pape François a écrit son encyclique ou a publié l'encyclique Laudato Si, vous-même, vous avez eu l'idée de proposer une animation pour les pèlerins autour justement du respect de l'environnement, de l'écologie. Et vous avez intitulé cette animation « Les marches vers l'essentiel ». Qu'est-ce que c'était ?
C'est prendre le temps de respirer, prendre le temps de voir ce qui se passe dans notre corps, prendre le temps aussi d'écouter les autres, prendre le temps aussi de se recueillir devant une parole de l'évangile ou de, enfin voilà, en fonction de ce que le prêtre va dire. Et à chaque fois, donc c'est, en gros, maximum ça dure 45 minutes. Le fait de marcher dans le sanctuaire, même au niveau du chemin des malades, le chemin de croix des malades. C'est plat, donc pour des personnes qui ont du mal à se déplacer, c'est très important. On est à l'ombre, tout ça. Donc voilà, prendre le temps de regarder autour de nous. c'est quand même quelque chose d'important. On a la chance de voir, on a la chance de goûter, on a la chance de respirer, on a la chance de marcher, on a la chance de toucher. C'est quand même, on se rend pas compte, mais je crois que c'est ça que j'ai appris à Lourdes, dans le sanctuaire, c'est de voir que quand on est en bonne santé, on se rend pas compte de la chance que c'est. C'est un sacré capital.
Et vous avez même fait des fois cette marche vers l'essentiel, vous me disiez, avec des personnes en fauteuil roulant, oui, ou en situation de handicap.
Oui.
Et combien elles appréciaient de retrouver le contact même avec leur corps, quoi, et la nature.
Oui, et le sourire. C'est, oui, oui. Enfin, voilà, ce que je pense que j'ai essayé de donner quelque chose, mais moi j'ai appris énormément. C'est des cadeaux. Souvent, je dis, la vie, elle est belle.
Alors, pendant ces années à Lourdes, vous avez même accompagné souvent des jeunes scouts d'ailleurs, qui préparaient des séjours à l'étranger. Pour vous, c'est aussi important. On ne peut pas partir à l'étranger comme ça, comme si on allait chez son cousin dans le village à côté, quoi. Il y a quand même toute une préparation. Alors, ce lien avec les jeunes scouts, qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui ?
Alors, donc aussi des échanges. Donc, c'est toujours très agréable de pouvoir parler. Hein. Ce sont des compagnons, donc ils sont prêts à partir. Et les scouts les accompagnent très bien. Attention, moi, j'intervenais simplement par rapport aux différents projets qu'ils avaient et dans quel pays, les pays où ils voulaient aller. On a d'abord, voilà, donc c'est affiner leur projet. Après, ils allaient retravailler avec les scouts quand ils partaient de Lourdes. C'est de montrer aussi Lourdes, d'animer aussi des pèlerins passants, donc aussi bien valides et non valides. Donc c'est ça aussi, parce que quand ils vont partir, donc dans leur mission de trois semaines à un mois, il va falloir qu'ils s'habituent déjà à la langue. Vivre, c'est pas du tout la même chose. Enfin, je pense que vous connaissez aussi. C'est d'une autre façon de vivre, de manger, le comportement, la tenue. Pour moi, c'était très important. Je disais aux filles, attention, vous ne pouvez pas arriver avec des décolletés plongeants parce que ça va pas passer. Ça dépend bien sûr du pays, mais enfin, en général, voilà. Je disais aux garçons, vous pouvez, je pense surtout au Burkina, si vous arrivez avec les cheveux longs, si vous êtes en brousse, la population, ils sont nombreux, mais on les voit pas, vont être très surpris parce que pour eux, ça va être, vous êtes une fille, etc., etc. Donc, on doit travailler. On doit aussi apprécier ce qu'ils nous donnent à manger, quoi. Donc voilà, c'est toute une éducation et je crois que c'est très, très formateur. Et j'inviterai tous les jeunes à partir à l'étranger en partant avec une formation ou chez les scouts ou autre. Mais en tout cas, c'est très formateur.
Alors Lisette, pour conclure justement cet entretien, ce parcours de vie, dites-nous ce que vous retenez d'essentiel pour vous de la rencontre de Bernadette Soubirous avec la Vierge Marie à la grotte de Massabielle. Qu'est-ce qui vous a vraiment touché et ce qui vous, aujourd'hui, vous permet encore de garder ce trésor en vous?
Alors pour moi, quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est quand Bernadette dit « elle me regardait comme une personne ». Pour moi, c'est tellement important. Effectivement, et je crois que j'ai appris, donc depuis que je suis à Lourdes, de regarder les personnes que je rencontre, désagréables ou très agréables, parce qu'il y a quand même plus de personnes agréables, je les regardais comme des personnes, et ça fait du bien.
Merci Lisette, merci pour votre
merci
témoignage, et on va vous souhaiter bon vent pour de nouvelles aventures.
Merci beaucoup.
Au revoir.
L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Présence à Montauban, 93.3.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Début des exercices spirituels de carême au Vatican. La première méditation a eu lieu hier dans la chapelle.